Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va être l'illustration du concept de low-tech par Low-Tech Magazine. Alors, pour ce sujet principal, je passe la parole à Laurent Costi, chargé de mission éducation et commun numérique au CMEA et vice-président de l'April.
Bonjour Fred, ben merci. Écoute, nous allons effectivement parler de low-tech. Alors, je vais faire une très courte introduction et présenter nos deux intervenants et intervenants. Donc Wikipédia, hein, moi je trouve que c'est toujours une bonne entrée pour commencer. Et puis évidemment dans l'émission on va creuser un peu la définition puisque là j'ai vraiment pris le chapeau de la définition. Donc le ou les low tech, littéralement basse technologie, désigne une catégorie de techniques durables, simples, appropriables et résilientes. Donc au cours de cette émission nous allons approfondir ces définitions et voir concrètement comment une logique low-tech peut se décliner. Alors la majeure partie du temps de l'émission, on va échanger avec Marie Verdeil, qui est venue spécialement de Bruxelles pour parler de Low-Tech Magazine, un site que j'ai découvert récemment et que j'ai trouvé assez extraordinaire, mais elle va vous en parler, vous allez voir, c'est assez étonnant. Et puis, Kylian Kemps nous rejoindra une dizaine de minutes après la pause médiane pour parler du chaton résilien qui, alors comme d'autres chatons, hein, se pose des questions énergétiques, mais nous décrira la démarche qui est employé à Résilien. Voilà, bah écoute, je vais te passer la parole, Marie. Je vais te laisser te présenter, tout simplement, et puis expliquer comment tu es arrivée à Low-Tech Magazine.
Oui. Bonjour, merci pour m'avoir invitée. Donc, je m'appelle Marie Verdeil. Je suis diplômée d'une école de design aux Pays-Bas, qui s'appelle la Design Academy Eindhoven. Et j'ai rencontré Low-Tech Magazine parce que j'ai fait un stage là-bas, dans le cadre de mes études. Je pense que c'était un peu une rencontre qui m'a un peu soulagée, parce que je pense que j'ai beaucoup d'éco-anxiété en général, et découvrir un peu des personnes qui ont une pratique sincère et vraiment, on va dire, pas trop greenwashée par rapport dans le design. En tout cas, je trouve que c'est une pratique de design pour moi. Comme fait Low-Tech Magazine, je pense que ça a été un moment de me dire « Ah, et en fait, on peut faire des choses, et il y a des façons d'agir qui me parlent, et dans lesquelles je peux m'investir et m'engager ». Alors que j'avais, enfin, moi, l'idée d'aller faire un stage, comme on va dire, c'était attendu de moi à ce moment-là, de peut-être aller dans un studio design, aller designer des, je sais pas, des logos, ça me plaisait pas du tout, quoi.
Oui, donc tu as trouvé ta structure, quoi, quelque part, en rencontrant Low-Tech Magazine. Alors comment ça s'est fait, cette rencontre avec Low-Tech Magazine? Ils cherchaient des personnes ou comment ça s'est fait?
Bah alors je pense qu'en fait, à la base, déjà, il faut dire que Low-Tech Magazine, c'est surtout une personne. C'est un journaliste à la base qui s'appelle Chris Edeker. Il est flamand, donc belge d'origine. Et il habite à Barcelone, ce qui fait beaucoup de liens avec le site dont on va parler plus tard. Et en fait, il collabore beaucoup avec des personnes, notamment il a collaboré avec une autre personne qui est aussi designer et un artiste pour faire le site solaire de Low-Tech Magazine, et aussi avec d'autres gens au fur et à mesure de son parcours. Et moi, je l'ai un peu contacté en lui disant « Voilà, j'aime bien ce qui se passe, ce site solaire m'intéresse parce que je fais aussi du design, entre autres du design, du web design ». Et là, en ce moment, je construis une cabane, ce qui était vrai. J'avais un projet un peu social de cabane à ce moment-là. Et voilà, peut-être que tu connais des gens. Écoute, sinon, peut-être qu'on peut parler, puis on verra, quoi. Et voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et là, du coup, ça fait un an et demi qu'on travaille ensemble. Au début, assez... enfin, j'ai été là-bas, etc. Et maintenant, on est aussi à distance. Voilà, donc je fais un peu tout ce qui est... Je travaille sur des questions de design. On a aussi... Quand j'étais là-bas, on a construit un vélo générateur.
Il y a un article extraordinaire sur le site.
Voilà. Je sais pas s'il faut que je continue ou tu...
Non, bah alors après, peut-être que tu peux nous... Justement, en introduction, j'ai vraiment donné une définition extrêmement simpliste du low-tech. Alors, du coup, quelle est la manière de voir du Low-Tech Magazine? Qu'est-ce qui se différencie justement de ces très nombreux sites qui font du greenwashing, qui surfent sur la vague? Comment vous incarnez la question low-tech à Low-Tech Magazine?
Je pense que c'est une question très intéressante parce que je dirais qu'on est assez en désaccord avec cette définition française. Et je pense qu'il y a vraiment une définition française qui est différente. Et je me demande si aussi elle est liée, on va dire, à la transition de langage. Mais c'est vrai que l'idée de définir les low-tech comme une série de technologies bien claires, de dire que celles-ci sont durables et résilientes et que d'autres ne le sont pas, je trouve que c'est très limité. Et en plus, c'est assez... je veux dire, on arrive très très vite à des contradictions. C'est-à-dire que, enfin, ça veut dire quoi? Par exemple, le four solaire, c'est une technologie low-tech, mais finalement, déjà, enfin, on ne peut pas penser vraiment à un monde où tout le monde a des fours solaires, puis de toute façon, tout l'hiver, comment on fait? Puis je trouve que c'est penser à ça comme une sorte de mode de vie, avec des technologies bien claires qui vont y être, qui vont faire exister ce mode de vie. Donc, par exemple, l'idée d'un four solaire ou l'idée de les marmites norvégiennes, tout ça, c'est déjà c'est très individualisé, je trouve. C'est-à-dire, chacun a une sorte de vision individualiste de sa maison qui va être low-tech, entre guillemets. Et puis, en plus, ça, on arrive vite à des limites. Moi, on prend souvent cet exemple, mais par exemple, on peut dire que le dumb phone, quoi, le téléphone à clapet, le Nokia 33.9, là, ou je sais plus comment il s'appelle, c'est le low-tech de l'iPhone, quoi. Et je pense que c'est plus une, il faut avoir une pensée de low-tech comme plutôt un exercice, une approche critique de la technologie et du progrès technologique plutôt que de penser, enfin, c'est un terme relatif, je pense. Et c'est ça que cet exercice, pour moi, c'est plus un prisme de pensée, un exercice critique de la du progrès et de qu'est-ce qui nous apporte vraiment entre guillemets plutôt que une sorte de solution. Enfin, je pense que si on parle de low-tech comme des solutions, on va dire durables, résilientes, on est aussi dans une sorte de technosolutionnisme de bon bah du coup ça sera pas la voiture Tesla et la fusée qui va nous sauver ou la fission nucléaire, mais ça va être le four solaire et l'éolienne. Je crois qu'on est vraiment dans une même logique et on va se confronter aux mêmes limites que ce mode de pensée induit, quoi.
Ouais, je pense que c'est important de souligner ça. Enfin, c'est ce qui m'avait beaucoup intéressé dans les lectures. Et aussi ce que vous pointez dans... Alors, il y a un article sur les colibris ne suffiront pas. Alors, j'ai pas le titre exact, je le remettrai dans le chat. Mais justement, cette question de l'individuel. Alors, évidemment, notre société est faite pour qu'on se concentre sur nos actions, qu'on focalise sur nos actions, qu'on nous rende coupables des actions qu'on ne ferait pas sur les questions écologiques. Alors qu'en fait, finalement, c'est beaucoup plus systémique. Faut regarder ça de manière beaucoup plus globale. Et ça, je pense que vous, c'est une question que vous soulevez systématiquement, justement, c'est le cas de le dire.
Oui, oui, tout à fait. Je pense que... Alors, je sais pas c'est quoi le titre en anglais, parce que moi, c'est vrai que j'ai pas le titre.
On va demander au chat de nous aider, là. Alors, je l'avais noté dans le pad, hein, le titre en français. Déjà, ça va nous aider. Voilà, nous n'y arriverons pas seuls, l'illusion du colibri. Ça, c'était le titre français. Ouais. Alors j'avais pris une citation dans l'article, comme ça va éclairer mon propos, qui sera peut-être plus clair en lisant le texte. Insister sur la responsabilité individuelle est typique du néolibéralisme et permet souvent de faire taire une critique systémique des configurations politiques, économiques et technologiques. Ouais. Et ça, je trouve ça, voilà, c'est une phrase qui est forte parce que du coup, elle montre bien toutes les problématiques qu'on a quand on parle de technologie et les techno-béats, techno-solutionnistes qui s'engouffrent, enfin qui profitent de cette logique-là, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il faut tout à fait dépasser ce mode de pensée. Et puis, je pense aussi vraiment arriver, et c'est une question qu'on se pose beaucoup en ce moment, c'est comment arriver à mettre aussi en place, même à travers des solutions, des objets qui vont peut-être porter, ou des prototypes qui vont porter ce message de low-tech, mettre en avant, au lieu de solutions, on va dire, très concrètes d'énergie ou d'apport, de cuisson, les choses de la vie de tous les jours, mais mettre aussi en avant des choses qui sont plus, qui permettent de dépasser l'individualité, donc plutôt comment penser à la fête, à la convivialité, et aussi le fait que essayer de dépasser l'idée que low-tech, c'est forcément moins bien que high-tech, et ça veut dire qu'en fait, on vient renoncer à beaucoup de choses. Et qu'en fait, finalement, l'idée de la décroissance, c'est l'idée de retourner en arrière, c'est l'idée de devenir des hommes de Cro-Magnon et que et ça s'arrête tout ça, etc. Et je pense qu'il faut aussi arriver à se dire et avoir un peu constamment cette façon de penser, de se dire, bon, est-ce que ça va vraiment nous rendre moins heureux de renoncer à certaines choses et de renoncer surtout à l'idée de confort? Je pense que pour moi, c'est un mot très fort et très capitaliste qu'il faut arriver à défaire et qui est très difficile à défaire. Et du coup, voilà, vraiment, on se pose des questions. En ce moment, là, on a fait des expérimentations pour, par exemple, utiliser des panneaux solaires avec une énergie directe, donc sans batterie, etc. Tout ce qui va être aussi, on va perdre l'énergie à travers la batterie. Et en plus, c'est pas très
chimiquement propre. Voilà, une batterie, exactement. De toute façon.
Ouais. Et du coup, utiliser directement ça pour aller alimenter, par exemple, des tourne-disques ou faire de la musique, faire des choses comme ça. Donc, un peu essayer de penser. On peut dire oui, ça sert à rien parce que, ça va pas faire cuire ton pain, mais en même temps, je pense que c'est plus l'idée de dire, bon, bah, se rassembler autour de ces choses, surtout de ces idées de solutions. Il faut que ce soit pas pour survivre tout seul chez soi, mais l'idée de se dire, en fait, qui a vraiment de la valeur, c'est la convivialité, le fait de faire ensemble, et peut-être de retrouver cette manière de faire ensemble à travers ces solutions plus low-tech.
Oui, finalement, on lutte aussi contre la rupture sociale, c'est-à-dire que du coup on recrée du commun. Enfin voilà, l'article sur le vélo, l'article justement sur cet appartement qu'on va essayer d'alimenter sans passer par le 220 EDF, sans passer par les batteries. Tout ça, ça oblige à se réfléchir, à se confronter, à penser des nouvelles choses, quoi. Et moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et on réquestionne. Alors ça fait partie. Alors du coup, tu peux peut-être aussi nous parler de Low-Tech Magazine, le pourquoi il est né et puis un peu ses objectifs, mais par rapport à justement se réapproprier un peu les techniques, quoi, arrêter de penser que tout est magique, et puis de toute façon si ça marche pas, bah faut renvoyer ça à un constructeur, ou voilà, il y a aussi tout ça dans le Low-Tech Magazine. Peut-être que tu peux nous redire comment s'est créé Low-Tech Magazine, quels sont les objectifs finalement de ce site.
Alors bah je peux en parler un petit peu, après c'est pas moi qui l'ai fondé, mais c'est un magazine qui a été fondé en 2007, donc qui est à la base et qui est toujours un magazine en ligne, qui était à la base un blog, et maintenant il y a aussi une version papier. Je pense que vraiment ce qui était intéressant là, qui intéressait Chris, c'était d'avoir un média pour pouvoir être critique et un petit peu sceptique par rapport aux évolutions et on va dire au discours très très important et comment dire, enfin on va dire le plus présent de technosolutionnisme, oui. Et puis aussi d'apporter on va dire je pense que lui, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est d'aller piocher, de faire des recherches historiques, et notamment de faire la recherche historique de ce qui a été un peu oublié, des technologies qui ont été un peu oubliées, et de s'approprier certains savoirs, certaines façons de penser, qui vont permettre d'avoir une critique technosolutionniste différente, et aussi de montrer qu'il y a un certain oubli historique, un révisionnisme qui a lieu pour nous assurer que oui, ce qu'on a, c'est vraiment le progrès le plus pointu, et que voilà, on est dans la high-tech, quoi.
Ouais, quand on lit l'article sur Cover, donc qui est un inventeur du début du 20e siècle, hein, qui avait finalement trouvé un peu par hasard, c'est ce qui est souvent le cas, une nouvelle technologie pour, une autre technologie pour les panneaux solaires, on voit bien tout ce qui peut se passer, et finalement, quand il y a des dominations de grandes entreprises, parce que fondamentalement, la question reste posée dans l'article de savoir s'il a pas été volontairement écarté, mais alors que sa techno était extrêmement intéressante, et après, a priori un peu moins polluante que les panneaux solaires de maintenant. Donc je trouve que voilà, encore une fois, cet article il est extrêmement éclairant, il questionne historiquement les questions de low technology, enfin alors low technology, alors à l'époque évidemment c'était pas de la low technology, encore une fois tu disais tout à l'heure que c'était relatif et du coup là ça le montre aussi, mais voilà, cet article illustre bien cette logique là de technologies qui peuvent soit émerger finalement, soit être étouffées parce qu'il y a des intérêts économiques, des intérêts politiques, etc. Ouais, c'est là aussi je recommande la lecture de cet article-là. Alors faites attention, hein, parce que c'est pareil, on se dit bah tiens, j'ai 5 minutes, je vais lire l'article. Puis finalement, on est au bout d'une demi-heure, on est encore en train de lire, tellement c'est passionnant aussi historiquement, techniquement, voilà, il y a pas mal de recherches. Donc Low-Tech Magazine sur des questions des recherches historiques, on va dire, techniques historiques. Il y avait quoi comme autre objectif à la conception de Low-Tech Magazine?
Qu'est-ce qu'il y avait comme autre objectif à la conception de Low-Tech Magazine? Bah écoute, ça je sais pas trop.
Non mais tu avais parlé, bon, on en a un petit peu parlé, mais donc dans la préparation, dans l'échange qu'on avait eu, il y avait eu la question vision systémique, sociétale, individuelle, donc on l'a déjà un peu évoqué, mais ça faisait partie un peu des choses qui doivent être pointées, en tout cas qu'on retrouve dans la lecture de plusieurs articles. La vulgarisation scientifique, alors peut-être ouais. Que tu peux parler hein, de l'article auquel tu as beaucoup contribué sur le vélo générateur, parce que moi qui ai fait un tout petit peu technique, mais franchement je ne me considère pas technicien, moi ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est toute la documentation et la possibilité qu'on peut être pris par la main pour finalement faire son propre vélo, quoi. Voilà, avec une connaissance certes un peu de base, mais on ne retrouve pas une formalisation aussi avancée sur beaucoup de sites, quoi. Alors vas-y, raconte-nous un peu l'histoire du vélo. Ouais. Du vélo.
Non, mais je pense que c'est vraiment intéressant comme angle de vue, ouais. Bah du coup, on a décidé de construire un vélo. Enfin, on n'a pas construit le vélo, on a utilisé un vélo donc d'appartement d'exercice vintage, donc qui est encore une roue, un volant d'exercice s'appelle, donc une roue lourde qu'on vient activer et qu'on va pouvoir. C'est ça qui va nous permettre de faire l'exercice. Donc c'est pas un vélo électronique. Et on a utilisé ça pour faire un vélo générateur, c'est-à-dire qu'on a en gros ajouté pour faire une image une grosse dynamo, donc un moteur. Qui est quand on pédale, on active la roue, qui active la petite roue, qui fait tourner le moteur, et du coup, on produit l'énergie. Et après, la question, ça a été, de, un, d'utiliser cette énergie et de tester, d'utiliser pour des, sur des appareils domestiques, et de faire plusieurs circuits qui vont alimenter différemment, et de deux, de vraiment essayer de documenter au maximum cette, ce processus, et d'essayer de comprendre en fait à quoi il... En plus de le faire aussi, qu'est-ce qu'il nous apprenait sur notre façon d'utiliser l'énergie, et comment on pouvait y transmettre ce savoir. Et aussi utiliser ça un peu, pas pour transmettre le savoir de savoir faire ce vélo-générateur, mais d'essayer de transmettre plutôt un savoir de très empirique de ce qu'on avait appris, nous, alors qu'on n'est pas du tout à la base scientifique, ni lui ni moi, autour de ça. Et on a des conclusions, voilà. Comme j'ai
donc,
dit,
ouais, la démarche, elle est, la démarche, en fait, c'est ça qui nous importe, enfin, qui est extrêmement intéressant quand on lit, c'est toute la démarche et ses erreurs. Là, on se retrouve dans la démarche scientifique, alors ça me touche particulièrement, mais je trouve que, justement, ça montre bien que la technique, c'est ça aussi, quoi. Maintenant, on est des utilisateurs passifs d'ordinateurs, ça marche pas, donc on envoie potentiellement un mail à quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. C'est pas ça, la technique. Il faut se confronter à la technique pour justement pouvoir apprendre, pour justement pouvoir s'améliorer, comprendre, et puis essayer de la réparer, justement, aussi, la faire évoluer, quoi. Oui, j'ai trouvé cet article-là particulièrement intéressant aussi. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est recommander à chacun de fabriquer son propre vélo pour pouvoir regarder Netflix, pour alimenter la télé. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'était qu'on était capable finalement de faire tourner une machine à laver avec ce vélo, en termes de puissance, en termes de représentation.
Alors, une machine à laver, on l'a pas testé. Je pense que il faudrait le faire, mais dans ce cas-là, avec l'énergie mécanique, c'est-à-dire ne pas utiliser l'électricité entre les deux et vraiment le faire. Il y a des gens qui l'ont fait, je sais, notamment dans les Pyrénées, de faire des machines à laver à vélo. L'idée, c'est pas forcément de dire aux gens de construire un vélo, parce qu'encore une fois, on n'arrive pas vraiment. Enfin, l'idée, c'est pas d'être dans l'individualité, de chacun va construire son petit vélo chez soi. C'est plus de penser qu'est-ce que ça veut dire de faire sa propre énergie, qu'est-ce qui est possible d'alimenter ou pas, et du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire, je pense. Si vraiment on pense à réduire considérablement, on va dire, l'énergie qu'on utilise autour de nous, eh bien ça veut dire qu'est-ce qu'on peut pédaler, qu'est-ce qu'on peut faire alimenter avec notre propre énergie, et qu'est-ce qu'on peut pas. Et du coup, est-ce que ça pourrait être une façon de penser à ce qui est ce qu'on est capable d'alimenter comme étant la limite de ce qu'on peut consommer. Et parce que, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'un téléphone, c'est très facile, on peut même mettre 10 téléphones. Après, par exemple, un frigo, ça devient difficile. Ou alors une bouilloire. Alors ça, c'est très intéressant. On prend souvent cet exemple, c'est-à-dire que Chris, il l'a fait. C'est-à-dire qu'on avait une petite bouilloire à 12 volts, une petite bouilloire qu'ils ont dans les camions, par exemple. Et on avait mis l'équivalent d'une tasse de thé dedans pour essayer de la faire arriver à 60 degrés, quoi, une température de thé. Mm-hmm. Mais bon, ça prend 30 minutes d'effort à vraiment...
Intense.
C'est très intense, quoi. C'est comme une grosse côte. Et du coup, à la fin, on a très chaud, mais plus du tout envie de boire du thé, quoi. Et du coup, c'était aussi un peu l'idée de penser que c'était. Enfin, d'ailleurs, en français, cet article s'appelle le vélo générateur, il me semble, pour la chaleur, l'électricité. Et du coup, l'idée, c'est l'électricité, on la produit, et la chaleur, bah, on la produit aussi parce qu'on fait beaucoup d'efforts. Et c'est aussi une autre façon de penser. Mais je pense que c'est pas tellement. Encore une fois, pour moi, c'est des outils, et c'est la même chose que l'idée de low-tech en général, c'est des outils pour arriver à penser de façon critique et à penser à se poser des questions de qu'est-ce que ça veut dire vraiment réduire, et comment on le fait, et comment on le fait de façon qui soit pas dans la contrainte et dans la souffrance de se dire « Ah, on est en train de renoncer à plein de choses ». Et je pense que, voilà, pour moi, c'est un outil de médiation aussi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on l'a amené dans une sorte de Fab Lab, enfin de workspace qu'il y a à Barcelone, parce que du coup le vélo il est à Barcelone, et c'était intéressant de faire jouer. On a fait de la guitare avec, enfin la guitare électrique par exemple, et on l'a amené, il y a plein de gens qui l'ont essayé. Je pense que c'est aussi des façons de comprendre l'électricité. Enfin, moi j'ai compris l'électricité à ce moment-là, j'ai compris la différence entre les volts et les ampères, parce que vraiment, voilà, tu rajoutes des ampères et tu les sens dans les jambes, parce que ça devient de plus en plus dur à pédaler. Et vraiment ça, je pense qu'il n'y a pas... un cours de physique, il va falloir te l'apprendre de cette manière-là, et c'est ça qui est vraiment incroyable. Et je pense que c'est pareil avec le logiciel libre, quoi. La fin, c'est aussi se dire, on met les mains à la pâte, et on est vraiment dans la technique. C'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment avoir expérimenté, quoi.
Ouais, et enfin, à t'écouter, je prends aussi conscience dans cette démarche-là, que justement, on prend conscience des échelles aussi, des échelles d'énergie potentiel pour faire telle ou telle chose. Ça me fait penser aussi aux problématiques qu'on peut avoir dans le numérique quand on essaye de faire comprendre aux gens ce que représente la donnée, ce que représente la consommation d'énergie. On n'arrête pas de nous dire videz vos boîtes mail, vous allez économiser beaucoup d'énergie, etc. Alors qu'on sait, enfin maintenant on le sait, c'était pas forcément le cas avant, mais on sait que c'est bien plus important de prolonger son appareil électrique. Et du coup, c'est voilà, ce type de démarche-là permet aussi justement de savoir quelles sont les opérations qui vont prendre beaucoup d'énergie, moins d'énergie. Voilà, on touche les choses, quoi. Enfin, c'est ce que tu dis. Finalement, on touche les choses et on les appréhende beaucoup mieux que si on les lit sur papier, quoi. Entre la théorie et la pratique, on s'approprie un peu mieux les choses.
C'est ça. Mais je pense que j'aime bien aussi le style Low Tech Magazine et moi, ce qui m'a directement parlé, c'est que comme c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est vraiment à la base un journaliste qui écrivait d'ailleurs pour, qui faisait de la revue, il me semble, de tout ce qui était de la veille technologique pour des magazines, donc vraiment revue de high-tech, on va dire. Et du coup, il a cette approche de la technologie où il comprend beaucoup de choses, mais en même temps, il n'a pas du tout une compréhension scientifique ou technique, et du coup, il va venir aussi et garde, en fait, je pense que cette... et moi aussi, je trouve que c'est vachement intéressant, de garder un petit peu de naïveté et de ne pas essayer de tout comprendre pour arriver à encore être le lien entre les personnes qui ne comprennent pas du tout et qui sont très loin de ça, et on va dire les discours scientifiques, quoi, parce que sinon on a aussi un problème d'articulation de ces problèmes qui peuvent paraître très vite abstraits, parler d'énergie, parler de voilà d'énergie, de puissance, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quand même pas forcément évident, quoi. Moi, je pense toujours à ma grand-mère qui était prof de physique, qui m'expliquait essayait d'expliquer la différence entre la puissance et l'énergie, et moi j'ai pas compris, quoi. Je pense qu'il faut vraiment être essayer de s'approprier ces choses-là par le faire.
Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été vaccinés par les cours de physique. Pourtant, il y avait à l'époque... Alors, Marie-Odile nous dit dans le chat que les cours de techno en sixième, ça faisait partie du programme, toutes ces questions-là, et que c'est en train d'être supprimé. C'est bien dommage. Il y avait quand même cette question des travaux pratiques, où justement, on est censé appréhender ça. Bon, moi, les souvenirs que j'en ai, c'est vrai que ça restait quand même très... très cadré et de plus en plus pauvre, qui permettait pas du coup d'expérimenter, de faire des essais-erreurs, quoi. Finalement, le fil du travaux pratiques était très très cadré, donc on sortait pas d'un chemin qui était tracé. Donc c'est là que c'était peut-être un peu compliqué. Et c'est vrai que du coup votre démarche là, où finalement vous êtes, c'est complètement ouvert. À un moment donné, vous vous dites bah tiens, c'est quoi cette problématique là, on va travailler sur ce sujet là on isole le problème, on travaille, on avance, et puis on résout ce problème là puis après on passe à un autre, on décompose en petits problèmes pour pouvoir les réassembler ensuite. Voilà, cette démarche là c'est chouette de pouvoir la dérouler. Enfin voilà, quand on voit le résultat de l'article, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant. Voilà.
Et puis je pense que c'est une approche pragmatique, on va dire, de thèmes qui parlent avec beaucoup de gens. C'est-à-dire, c'est vraiment essayer, au lieu d'avoir une approche très, très large, c'est d'avoir une approche, je pense, qui va être systémique et qui va penser vraiment plein d'éléments, par exemple l'énergie, l'électricité, qui a le réseau d'électricité, tout ça, mais de façon avec des angles d'approche petits. Et je pense que c'est vraiment hyper nécessaire. Et je pense que par exemple, le design, c'est aussi une façon de faire ça, c'est de se dire, on a une approche pragmatique par les objets et ou d'ailleurs d'autres choses, mais qui après permettent d'aborder des thèmes plus larges, mais sans les rendre complètement lointains.
Mmh. Ouais, la technique est politique, hein. On avait dû l'échanger, je pense, dans le pad, mais je pense que ça, c'est primordial, hein. C'est clair que ça fait partie des éléments importants. Alors, du coup, on va rejoindre peut-être un sujet qui me semble important dans l'émission. La convergence entre logiciels libres et low-tech, tu la vois comment? Low-tech Magazine la voit comment? Alors, il y a un article là aussi qu'on va signaler, hein, qui parle justement d'une personne qui garde son ordinateur le plus longtemps possible. Donc là, je vous invite à le lire, hein. C'est des choses qu'on connaît déjà à l'April, mais là aussi c'est très descriptif, ça explique toute la démarche et le pourquoi il en est arrivé à cette conclusion, ce qui n'était pas le cas au départ, hein, il n'était pas forcément parti pour ça.
Mais alors oui, je pense que déjà le logiciel libre est déjà assez présent dans le mode de travail de Low Tech Magazine. Donc comme Chris, il utilise des Linux depuis très longtemps, il est sur Linux, il a des vieux ordinateurs, et donc il explique très bien dans cet article pourquoi en fait pour lui et pour plein de gens c'est mieux. Et je pense qu'il parle vraiment très bien de la question de, on va dire, compatibilité et rétrocompatibilité, quoi. C'est-à-dire que on va avoir des logiciels libres qui vont fonctionner sur des vieilles machines, et vraiment nous, on a le site, C'est un site très simple en termes de comment il est construit en HTML, etc. Donc, il fonctionne sur des très, très vieilles machines. Moi, il m'a donné un ThinkPad, c'est 2006, je crois. Voilà, ça, il n'y a pas de souci avec le site. En plus, il est très léger. Et je pense que donc, il y a cette idée-là, donc vraiment dans le mode de travail. Et après, je pense que déjà, il y a un peu ce côté, donc cette approche critique à la technologie, évidemment. L'idée de commun, de mise en commun. Et nous, on essaye aussi de mettre en commun, de partager notre savoir. Et donc, par exemple, bon, alors c'est compliqué parce que de toute façon, la licence sur tout ce qui est les idées, par exemple, ce vélo générateur, on a mis en ligne les plans et tout ce qu'on a trouvé. Après, je pense qu'on espère que ça va aussi créer des discussions. Si les gens, ils le font, ils vont répéter ça, ça serait intéressant qu'on en discute, quoi. Après, je pense que, comme tu dis, il y a aussi la dimension politique, quoi. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit avant, je pense que l'idée de low-tech, c'est pas... Ça ne doit pas s'arrêter à une sorte de mode de vie. Et c'est un peu en train d'être comme ça, je trouve, en France. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur comment on va acheter ce mode de vie low-tech, c'est-à-dire acheter un vélo cargo et acheter quelque chose comme ça. Et aussi, donc il y a cette idée-là. Et je pense qu'il faut vraiment la dépasser pour penser que c'est pas que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de politique aussi. Il faut... À la fin, c'est de la critique de notre société et il faut pas se laisser, on va dire, faut pas se laisser capitaliser par, enfin, faut pas laisser les gens capitaliser sur cette idée, quoi.
On est d'accord. Hein, le logiciel libre, c'est aussi quelque chose d'extrêmement politique. La prix est bien placée pour le savoir. Je vais repasser la parole à Fred.
Oui, l'occasion de faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Sur la Terre par Sucre Pop. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Sur la terre, des gens qui pleurent et se serrent lancent en l'air des prières. Ces prières retombent en pluie de misère sur la terre. Sur la terre, des gens qui rient et se serrent.
Plus de sentiments.
édité sur la Terre par Sucre Pop, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. C'est Bayessa. Nous allons poursuivre notre discussion sur le low-tech, ou la low-tech, je sais pas en français comment on dit. En tout cas, je vais redonner la parole à donc Laurent Costi, chargé de mission éducation et commun numérique au CMEA, vice-président de l'April, Marie Verdeil, designer chez Low-Tech Magazine et indépendante. Laurent, Marie, c'est à vous.
Merci Fred. Alors après cette pause musicale, on va passer la parole à Kylian s'il est connecté. Est-ce qu'il nous entend ?
Bonjour.
Bonjour Kylian, parfait, c'est impeccable. Donc tu es à Lannion, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Donc, tu es loin du studio, mais normalement tu vas réussir à nous parler du chaton résilien, donc chaton collectif des hébergeurs, alternatif, transparent, ouvert, neutre et solidaire, et résilien en particulier puisque tu es cofondateur de ce chaton, me semble-t-il. Donc écoute, tu vas nous présenter ce chaton et puis nous expliquer en quoi finalement les questions énergétiques sont présentes à résilien.
Oui, très bien. Résilien, c'est un hébergeur numérique alternatif cofondé avec Simon Constant en 2021. Donc nous faisons partie du collectif Les Chatons et nous avons une vision de la technologie où nous voulons aider les gens à se réapproprier la technologie. Et notre signe distinctif par rapport aux autres hébergeurs, c'est qu'on souhaite le rendre le plus sobre du point de vue écologique et de décentraliser l'infrastructure. Tu parlais de l'énergie, comment réduire l'énergie. Alors d'un point de vue écologique, par rapport à ce que nous connaissons actuellement de l'impact écologique du numérique, aujourd'hui nous estimons que l'impact est plus grand au moment de la fabrication des machines. C'est-à-dire que c'est au moment de la fabrication des machines, il y a plus d'énergie qui est dépensée et de pollution qui est générée, et notamment du CO2. Donc si on souhaite être écologique dans le numérique, le mieux déjà, c'est de faire durer le plus longtemps possible nos machines. Chez Résilien, pour ça, nous avons privilégié l'utilisation de machines reconditionnées. Donc, ce sont des machines qu'on peut trouver chez n'importe qui, des ordinateurs portables, voilà, n'importe quoi, juste qu'ils soient réutilisables et on veut faire durer le plus longtemps possible. Et quand même, sur la consommation énergétique, nous avons des micro-ordinateurs qui sont connus sous le nom de Raspberry Pi et qui sont connus pour leur faible consommation énergétique. Et donc, nous avons quelques machines comme ça. Et pour donner un ordre d'idée, sur toute notre infrastructure publique en France, sachant que nous sommes un tout petit hébergeur, nous consommons 80 watts. Donc, à peu près l'équivalent d'un ordinateur portable. 80 watts, sachant que nous avions environ une vingtaine de clients dispersés dans la France, dont une agence de communication locale. Et il y a pas mal de...
Si je peux me permettre, oui. une structure qui hébergerait sans faire attention à comme vous le faites vous, ce serait combien? Ce serait quoi, le double?
À peu près. C'est difficile à dire.
Un ordre d'idée.
En fait, si une structure héberge ses données dans un centre de données très bien optimisé dans une grande entreprise, normalement avec la mutualisation, l'impact est assez faible. En termes de consommation énergétique, parce que il y a une machine qui est allumée et qui est partagée entre des centaines, voire des milliers de personnes en même temps. Nous, chez Résilien, on peut pas faire de mutualisation parce que nous avons plein de petites machines.
D'accord, vous êtes dans une logique de décentralisation. C'est pour ça que vous avez choisi de ne pas être sur des gros data centers. Donc c'est aussi pour ça que viennent. Ah, on a des petits soucis de micro. Donc vous êtes dans une logique de décentralisation. Donc c'est aussi pour ça que vous avez cette consommation là, mais qui est quand même faible.
Oui, pour l'instant c'est pas énorme, et en même temps nous n'avons pas non plus beaucoup de clients. Pour l'instant nous sommes en sous-charge, je dirais. On peut encore accueillir beaucoup plus de personnes. En même temps, nous ne cherchons pas forcément à être efficients. Pour l'instant, l'industrie, elle cherche à être efficiente, à consommer le moins d'énergie possible par rapport à la charge de travail. Nous ne cherchons pas à faire ça parce que on a un peu peur de l'effet rebond. C'est-à-dire que les machines sont tellement efficientes que les gens se disent « Ah bah, c'est pas cher de consommer plus, du coup on consomme plus ». Et nous, on cherche plutôt à repenser l'usage différemment.
Ouais, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est bien que tu parles de l'effet rebond. Alors, du coup, je vais faire un tout petit parallèle avec Zurit. C'est vrai que pour Zurit, qui est donc une solution que proposent des CMRA, on fait payer aussi au gigaoctet, ce qui permet de faire prendre conscience aux gens que, bah oui, à chaque fois qu'ils demandent plus d'espace, ça a un coût énergétique quelque part. Donc, c'est pour des raisons pédagogiques, finalement, qu'on fait ça, contrairement aux géants du web qui offrent des espaces infinis, enfin, qui donnent l'impression d'offrir des espaces infinis et qui, finalement, trompent les gens sur ce que c'est réellement que l'informatique et le numérique. Vas-y, je te laisse poursuivre.
Bah justement, à propos de cette approche pédagogique, donc chez Résilien, nous expérimentons. Nous ne disons pas que nous avons la solution, mais on essaye différents usages. Par exemple, nous éteignons une partie de nos machines la nuit. La plupart de nos clients sont des entreprises qui, a priori, n'ont pas besoin de travailler la nuit. Donc, nous éteignons les machines et économisons l'énergie électrique à ce moment-là. Avec quand même un bémol, on fait exprès de laisser allumer les machines qui hébergent les sites web afin de garder un bon référencement et que les gens puissent continuer à consulter le site web. Ça, c'est la première approche. Et une autre chose qui est un peu dans la continuité, on ne propose pas de haute disponibilité des services. Aujourd'hui, les grandes entreprises proposent ce service-là, qui est donc de faire en sorte qu'il y ait le moins de panne possible des services. Mais pour faire ça, on fait duplique les services sur plusieurs machines qui tournent simultanément. Donc pour un site web par exemple, bah il est répliqué sur au moins trois machines différentes qui consomment autant. Nous proposons de ne pas faire ça et donc d'avoir qu'une seule machine et si elle tombe en panne, eh bah tant pis. Avec encore une fois un bémol, quand même pour le choix des sites web, on préfère quand même faire des applications avec un logiciel libre développé par l'association De Fleur. Un petit coup de pub pour nous, les amis. Et donc c'est quand même un logiciel plutôt sobre et qui permet de faire facilement la duplication de sites web qui sont des sites statiques. Donc c'est un compromis que nous faisons.
D'accord, bah en tout cas c'est extrêmement intéressant ce voyage dans le monde des hébergeurs finalement, donc c'est extrêmement intéressant. Bon, tu as parlé un petit peu des limites, donc vous êtes obligé finalement de laisser des sites ouverts la nuit quand même pour la question de référencement, pour pas que les sites tombent dans les limbes des internets on va dire. Et est-ce que vous avez des réussites?
Pour l'instant, notre réussite, c'est que personne nous a fui. Tous les clients qu'ils ont rejoints sont toujours là. À noter quand même que ce sont des personnes qui sont plutôt militantes, engagées, qui sont convaincues par notre démarche.
Ouais, qui ont compris les enjeux qu'il y avait pour venir vers vous, en fait. Hein, c'est ça. Il y avait déjà un préalable. Il y avait déjà un terreau.
Tout à fait. C'est pas n'importe qui vient nous voir. Et pour continuer sur nos réussites, en fait, pour l'instant, Résilien, c'est tout petit. On ne sommes que deux à gérer les machines qui sont éparpillées entre la Bretagne, la Loire, un petit peu en région parisienne. Et malgré le temps qu'on accorde, en fait, ça marche plutôt bien sur les petites machines. Et personne ne s'est plaint des possibles pannes.
D'accord. Votre modèle économique, pour l'instant, n'est pas encore consolidé. Vous êtes deux salariés, mais c'est encore pas consolidé. Vous êtes vous êtes toujours en train de développer pour chercher un équilibre financier. Vous êtes loin de l'équilibre financier encore.
Alors justement, à propos de la pérennité économique, donc au départ, Résilien, on voulait pouvoir en vivre. Sauf que on a pratiqué des prix beaucoup trop élevés par rapport à l'industrie qui peuvent se permettre de faire des économies d'échelle. Donc on a fait quelques changements. Moi, je ne suis plus salarié de Résilien. Je suis salarié chez les CMA. Et Simon, lui, continue encore un peu, mais il fait d'autres activités à côté pour faire rentrer de l'argent. Donc pour l'instant, Résilien, c'est plus une activité qu'on cherche à rendre associatif, pour laquelle on aimerait travailler en tant que bénévole, ce qui permet de changer les enjeux et pouvoir, par exemple, proposer nos services à des associations qui n'ont pas beaucoup de moyens et être du coup plus dans l'utilité plutôt que chercher forcément à être rentable.
D'accord. Mais en tout cas, très très beau projet. Est-ce que tu veux rajouter un dernier point pour conclure ou une chose importante que tu voulais dire à propos de Résilien ou même plus globalement ou par rapport à réagir peut-être avec ce qu'a dit Marie dans la première partie de l'émission?
Je dirais juste que je suis d'accord avec Marie sur le fait que low-tech c'est plutôt une démarche et que chez Résilien, nous sommes dans le numérique, c'est plus low-tech que ce qu'on peut trouver dans la grande industrie, mais c'est moins low-tech que du papier crayon quand on veut partager l'information. Donc c'est toute une question de dose et il faut toujours garder l'esprit critique sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ce que nous faisons? Est-ce qu'on a vraiment besoin de la dernière technologie? Et côté expérimentation, chez Résilien, on s'autorise des choses un peu trop, comment dire, peut-être moins low-tech, on va dire. Par exemple, on a une demande d'une coopérative qui veut archiver ses données, environ 20 teraoctets de données, ce qui est beaucoup pour nous. Et donc, c'est un enjeu. On se dit, est-ce qu'on va accepter ou pas? Et si oui, qu'est-ce que ça implique? Et par exemple, donc, Simon a trouvé sur un site de vente d'occasion une machine qui fait du stockage sur des bandes magnétiques. Et les bandes magnétiques, par rapport à des disques durs mécaniques, ont une plus longue durée de vie. 30 ans environ contre 5 voire maximum 10 ans pour un disque mécanique. Et donc on se dit, bah, les bandes magnétiques sont plutôt plus low-tech que les disques mécaniques. On n'a pas encore la réponse, mais on vient d'avoir la machine tout récemment, mais ça fait partie de nos expérimentations.
D'accord, alors moi je pensais l'inverse, hein. J'avais vraiment une représentation qui faisait que les bandes c'était obsolète, que c'était moins performant, mais a priori t'es en train de dire le contraire. Donc ça aussi c'est intéressant, parce que finalement c'est la recherche qui fait que, enfin c'est vos expérimentations et vos questionnements qui font qu'on peut débunker ce type de choses qui circulent, quoi. Ok, bah écoute... Oui, je t'en prie, Fred.
Juste rappelle ce que veut dire débunker.
Pardon, débunker. Oui, alors critiquer la question. Enfin, comment tu le dirais, tiens?
Révéler.
Oui. Enfin, en tout cas, dire le contraire de ce qui est généralement pensé, quoi.
Voilà, exactement. C'est ça. Merci.
Montrer que c'est le contraire que ce qui est généralement pensé. Voilà. Merci, Kylian. On va en rester là. On va repasser la parole à Marie Verdeil. Je te remercie beaucoup pour cette intervention-là, qui éclaire aussi la vie d'un hébergeur local, Chaton, par ailleurs. Donc, merci à toi.
Merci à vous.
Ah si, il y a du décalage, je pense. Merci à toi, Kylian. À très bientôt. Et je vais repasser la parole à Marie. Alors, je vais relayer deux questions qui sont passées sur le chat. Alors, il y a une question de Michael, qui nous demande comment on peut aider Low-Tech Magazine. Est-ce qu'il recherche des rédacteurs, des relecteurs, des traducteurs?
Alors oui, merci Michael. Donc, en français, on a déjà beaucoup de traducteurs. Je crois que la plupart du site a été complètement traduit. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et donc d'ailleurs, il y a plusieurs articles qui sont sortis dans un volume, donc le volume 3. Donc les compilations d'articles, il me semble, de 2018 à 2021 ont été complètement traduits en français. Et les traductions ont été égalisées. Donc je sais pas si on recherche, je pense que c'est toujours bien de proposer des services de traducteurs, on a une grande communauté qui nous aide beaucoup. Et après, comme j'ai dit, donc le site de Low-Tech Magazine n'est pas compatible avec tout ce qui est pub, donc le modèle économique de Low-Tech Magazine, c'est les livres. Donc pour l'instant, il y a 3 livres qui sont sortis, donc des compilations des articles en anglais, et on est en train de travailler sur toutes les traductions en français, mais il y en a déjà une qui est disponible. Donc ça, c'est pour soutenir Low-Tech Magazine, c'est acheter le livre, et en plus c'est une expérience, je pense, très différente et très forte d'acheter le livre papier pour le lire et vraiment se plonger dans les sujets. Et après, on a aussi un Patreon, donc un système de soutien de
financement participatif,
exactement, qui nous aide. Donc voilà. Et donc ça, tout ça sur le site, si vous allez sur le site, donc le site c'est solar.lowtechmagazine.com. Il y a un onglet, donc si on va dans la version française, qui s'appelle faire un don, il me semble. Et donc là, il y a plusieurs choses. Et il y a aussi, il y a une newsletter aussi en français et en anglais qui permet d'être informé des informations. Et donc là, on a pas mal de choses qui sont en préparation. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner à la newsletter, qui est la façon la plus fiable de nous suivre, quoi. Parce que bon, les réseaux sociaux ont beaucoup de limites.
Très bien, donc du coup, dans la newsletter, on saura les articles qui sortent, etc.
Exactement.
Super, merci beaucoup. Alors du coup, une deuxième question par rapport aux licences. Sous quelle licence sont placés les articles? Il n'y a rien d'autre que copyright, crise de Decker en fin de page.
Il me semble que les articles sont copyright. Je ne suis pas exactement sûr, il faudrait demander. Je sais que, par exemple, sur la question du manuel, donc le manuel par exemple, qu'on a fait pour le vélo, de toute façon, on ne peut pas vraiment copyrighter, et ce n'est pas du tout l'idée du vélo. Et en plus, on est plein de personnes à l'avoir fait. L'idée, c'était vraiment de partager tout le savoir qu'on avait avec des gens. Après, là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de statut qui a été... L'idée, c'est de mettre ça de façon que ce soit libre. Mais on n'a pas... C'est une question qu'on se pose, mais je pense qu'on ne connaît pas beaucoup. On ne s'est pas encore trop plongé dans les licences. Et du coup, de voir exactement comment on pouvait faire ça aussi de façon qui nous parle. Je pense que ce qui nous intéresserait, ce serait d'avoir des échanges avec les personnes qui peut-être ont envie de reproduire ces choses-là, d'utiliser des articles. Après, je sais que tous les gens qui ont demandé d'utiliser des articles, de les publier, de les republier, etc., ça a été accordé. Il y a des gens qui l'ont publié en portugais, par exemple. Donc, je sais que c'est... Je ne sais pas exactement, voilà.
Oui, sur les quelle licences. A été la réflexion de pourquoi le mettre en copyright? Il y a peut-être pas. Enfin, si, ça a été vraiment
je
réfléchi.
Je ne sais pas si c'est vraiment. Il y a vraiment une réflexion. Je pense que c'est un choix par défaut à la base. Et après, maintenant, je pense que c'est des questions qui se posent, mais qui n'ont pas encore été vraiment. On va dire, il n'y a pas eu de changement clair.
Donc, on peut vous mettre en relation avec des gens qu'on connaît bien à l'April pour vous donner des arguments dans un sens. Après, évidemment, à vous décider, mais on pourra vous donner des arguments complémentaires.
Mais c'est des questions qu'on se pose déjà, notamment sur tout ce qui est tutoriel, etc. Donc,
Très bien. Ben, merci d'avoir répondu à ces deux questions. Alors, il y a un côté extrêmement intéressant aussi dont on n'a pas encore parlé, qu'on voulait évoquer, qui était la question du site solaire. Ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Kylian. Alors, il y a une version solaire du site.
Exactement.
Tu peux nous en parler un peu plus?
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que je pense que Kylian, il a bien, on va dire, tâté le terrain sur cette question-là. C'est-à-dire que donc le site de Lowtech Magazine, en tout cas celui qu'on essaye de rendre le site principal, donc dont l'URL c'est solar.lowtechmagazine.com, c'est un site qui est hébergé sur un petit serveur qui est lui-même alimenté par un panneau solaire qui se trouve à Barcelone, sur le balcon de Chris, dans son appartement. Et du coup, ce que ça fait, c'est que quand il fait nuageux pendant plusieurs jours d'affilée et que la batterie n'a pas le temps de charger, le site arrête de marcher. Le site est hors ligne. Et d'ailleurs, c'est la première, quand on arrive sur la page, c'est la première chose qu'on voit, c'est ce site pourrait être en ligne. Alors, je ne sais pas comment c'est en français, mais peut être hors ligne. Voilà. Et c'est un peu l'idée, c'est, je pense que cette première idée, c'est vraiment de mettre, de challenger l'idée de fiabilité du web, c'est-à-dire que l'idée que l'Internet c'est toujours en ligne et qu'il faut que ce soit 100% du temps en ligne. Et du coup, nous, on a un site qui est, je crois, entre 95 et 98% du temps en ligne, ce qui est très très fort. Et c'est très bien ce Kylian expliquait, c'est qu'arriver à 100%, ça demande énormément plus de ressources. C'est-à-dire que là, il y a un panneau solaire, je crois, c'est 30 watts, et une petite batterie 12 volts genre de voiture qui permet d'alimenter le site et il est en ligne quasiment tout le temps. Mais si on voulait qu'il soit 100% du temps en ligne, ça demanderait plusieurs panneaux solaires pour, par exemple, la seule semaine de l'année où, en gros, il fait vraiment moche pendant toute la semaine et du coup, ça ne peut pas du tout charger suffisamment. Et ça fait aussi que comme on a un système très simple et assez limité et on a un serveur 2 watts, il me semble, maximum, ça veut dire qu'on a un site, ça change le site, on a un site qui doit être très très compressé, c'est-à-dire très petit. Parce qu'à la fin, quand on y pense, un site web, en tout cas comme celui qu'on a, c'est juste plein de fichiers sur un serveur que les gens y viennent accéder. Et donc nous, on a essayé de faire en sorte que ces fichiers, finalement, ils soient très légers. Donc on a un site qui s'appelle Statique, qui marche avec des pages HTML, des feuilles de style CSS, très très peu de JavaScript. Je crois qu'il y a genre une page qui utilise JavaScript, plus tout ce qui est pour avoir les... Parce qu'en fait, il y a les statistiques de combien de watts ça utilise, etc. Donc, si on veut aller en bas du site. Et après, on a par exemple compressé les images extrêmement pour qu'elles soient très légères et qu'elles consomment peu et qu'on n'a pas besoin de les télécharger des gros fichiers. Et on utilise ce qu'on appelle un générateur du site statique. C'est-à-dire, ça va être un outil qui va nous permettre de passer de Markdown, qui est un format assez clair de
pour un humain,
voilà,
pour un humain, exactement. Voilà, il y a quelques balises, on appelle, voilà,
c'est des balises, etc. À du HTML avec tout ça et le style qu'on a voulu, voilà. Donc ça, c'est le site solaire, le site Lowtech. Et donc ça aussi, c'est très bien référencé en ligne. Mm-hmm. Il y a un tutoriel, il y a aussi un article qui s'appelle est-ce que c'est vraiment, alors en anglais, en français je sais pas comment il s'appelle, mais qui parle de à quel point ce site est vraiment soutenable. Mmh. Et en fait, finalement, qui est aussi par le fait que si c'était un data center qui serait aussi efficace, il serait très efficace, mais que finalement, là, vu que c'est un site tout seul, bah, il est peut-être moins efficace que parce qu'il n'y a pas d'économie d'échelle, comme Kylian en parlait. Donc, je pense qu'il est aussi critique de ce qui se passe, etc. Et il y a aussi des tutoriels sur la partie design du site qui a été fait par Marie Otsuka, qui est une designer, je pense, très talentueuse, qui nous vient des États-Unis. Et Roel Roskam Abing, qui s'est occupé, qui est un artiste néerlandais, mais qui est vachement dans tout ce qui est... qui s'est occupé de toute la partie serveur, entre autres. et qui fait beaucoup d'hébergement et qui s'intéresse beaucoup aux questions de réseau, entre autres, et de numérique. Voilà, donc ça, c'était les personnes qui ont participé à ce projet. Donc c'est...
D'accord.
Il y a beaucoup d'informations.
Alors du coup, moi, j'ai quelques questions. J'ai d'abord découvert le site Solar, et après, j'ai découvert qu'il y avait un site qui n'était pas Solar. Ouais. Et du coup, j'étais un peu déçu, mais j'ai un peu la réponse, enfin, Kylian a un peu donné la réponse. Finalement, c'est des questions de référencement, c'est des questions de... Qu'est-ce qui a fait que, finalement, vous aviez dupliqué le site dans un mode moins économe?
Alors, je pense qu'au début, c'était un projet, on va dire, expérimental de faire ce site, et on savait pas trop ce que ça allait donner. Et donc ça, c'était en 2018, et il y a eu un gros succès. Il y a eu beaucoup, les gens en ont beaucoup parlé. Et du coup, mais c'est vrai qu'au début, à la base, je pense que c'était pas forcément pensé pour être un remplacement, mais plus comme une expérimentation et voir ce qui se passait.
Ah oui, d'accord. Alors, c'est le site normal, entre guillemets, qui a d'abord été fait.
Ouais,
et
à la base, c'est un site typepad, c'est un truc un peu comme WordPress, qui était pas du tout, il n'y avait pas de réflexion sur la partie, on va dire, la dimension écologique du site. Et c'est vrai que là, c'est devenu assez puissant. Alors pourquoi il y a toujours un site, j'ai envie de dire, il n'y a pas un autre site pour très longtemps. C'est-à-dire que là, on est en train de travailler à ce moment même, là, d'ici 2-3 semaines. En fait, c'est qu'il y a encore beaucoup d'articles qui sont sur ce vieux site, qui n'ont pas été encore transférés. Et en fait, c'est très compliqué parce que, évidemment, ce n'est pas un logiciel libre. On ne peut pas sortir facilement de ce service qui est iPad. Il ne nous laisse pas télécharger les images. On ne peut pas sortir du Markdown. On ne peut pas sortir. Il y a un HTML, mais qui a plein de pubs encore et de liens dedans. Donc, on a conçu un script, mais qui n'est pas du tout parfait pour essayer de sortir le maximum d'informations de ça. Mais c'est un processus qui prend du temps et qui, en plus, nous coûte de l'argent, au sens qu'il ne nous rapporte pas du tout d'argent de faire ça. Et donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Après, là, on se retrouve, l'idée, c'est de vraiment en sortir. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, il y avait 5 sites Low Tech Magazine. Il y avait en français, en néerlandais, en anglais. Il y a un autre site qui s'appelle No Tech Magazine, qui, lui, et encore sur WordPress, et qui vraiment est un peu le site sœur de Low Tech Magazine, qui va plus être des liens et des plus petites, des plus petits billets qui viennent compléter souvent les articles plus longs et recherchés de Low Tech Magazine. Et il y avait aussi le Low Tech Magazine en espagnol. Et du coup, là, on est en train de rassembler un petit peu. Donc, il y a déjà les sites, tous les sites de différents langues ont été rassemblés sur le site Solaire. Et il manque encore beaucoup d'articles, des vieux articles qui doivent être amenés. Et en fait, quand ce processus sera finalisé, l'idée, c'est d'arrêter l'autre site, quoi.
D'accord. Ah ben, ça, je suis absolument rassuré. Si vous étiez dans la démarche, alors ça me va complètement.
Et l'autre raison aussi, parce que pour l'instant, c'est que sur le site Solaire, on utilise des images qui sont compressées. Donc, elles utilisent, en anglais, on dit dithered, c'est-à-dire, elles ont une sorte de pixelisation. Mm-hmm. Donc là, en plus, ce qui est coloré, elles sont tramées, exactement. Mm-hmm. Et qui permettent de les compresser, enfin. Elles peuvent être, on va dire, de très mauvaise qualité, mais c'est pas aussi moche que du pixel. C'est aussi un choix esthétique qu'on a fait d'identification un peu qui parle de la compression, du fait qu'on a des images compressées, qu'on a un site compressé. Mais du coup, ça fait qu'il y a beaucoup d'images, notamment des graphiques, des images où les textes sont très importants, où il y a beaucoup de gens qui vont consulter, ceux qui savent, qui vont consulter le site, le vieux site, pour voir les images en bonne qualité, pour se rendre compte, notamment des graphes. D'accord. Et notamment sur les vieux. Maintenant, moi je fais des graphiques pour les articles et je pense à tout écrire en gros pour que ce soit lisible, même malgré la pixelisation. Mais c'est vrai que c'est pas le cas sur les autres articles. Et du coup, avec le nouveau site, on a décidé d'inclure aussi une façon d'accéder avec un petit script aux images originales, si on le veut. Et du coup, de choisir de télécharger plus de données de l'image originale, même si elle est aussi compressée. Et du coup, ça nous permet de nous débarrasser complètement de ce vieux site, mais aussi sans perdre vraiment l'information des fois qui est très nécessaire, notamment des cartes et des images d'archives, etc., qui quand même ont beaucoup de valeur. Ça serait bête de perdre ça avec l'information, on va dire, de bicolore.
D'accord, mais effectivement, je trouve que c'est extrêmement intéressant de pointer cette question des photos, parce que finalement, les photos sur le site, elles sont de l'ordre de 10 kilooctets, non? Enfin, 10 à 40, enfin...
C'est ça, on met assez peu, c'est en dessous de 50.
Alors que les appareils, quand on fait une photo avec son appareil photo numérique, enfin avec son téléphone, smartphone, on est sur des 4 mégas, donc on est pratiquement, enfin un peu moins de 1000 fois plus. Enfin, voilà, on voit bien la conséquence de cette réduction, de cette sobriété que vous avez expérimenté avec le site. Et si je me souviens bien dans le site, j'ai pas revu récemment, mais il y a un niveau la couleur du haut de la page est différente de la couleur du bas de la page pour signifier le niveau de charge de la batterie et de l'ensoleillement, c'est ça?
Exactement. On a un niveau, donc on a un truc qui va mesurer la batterie directement à la sortie, et du coup on va avoir cette information qui va être sur le site dans le comme un niveau, exactement comme tu l'as dit. Il y a une sorte de pile au milieu, et du coup on voit la jauge de batterie, et aussi dans le footer en bas qui explique aussi ça
dans le pied de,
et l'idée c'était un peu de aussi de pouvoir prévenir les gens que si le site il est à 12%, mais voilà, il reste plus beaucoup de temps, donc
dépêchez-vous de lire les articles,
voilà, ou d'aller acheter le livre en ligne pour
très bien,
pour les lire. Et puis aussi un petit peu de, parce qu'aussi je crois qu'il y a beaucoup, on utilise beaucoup le cache, donc en fait si vous avez consulté les articles, après vous allez pouvoir les réaccéder sans
retélécharger les données.
Exactement. Et du coup il y a plein de dynamiques comme ça qui font pour, on va dire, éviter tous ces transferts de données, ces téléchargements qui vont être consommateurs d'énergie et qui
D'accord, il y a aussi beaucoup de réflexions autour de ça, quoi, de transfert de données inutiles, on limite, on...
C'est ça, l'idée, c'est de limiter de façon générale, et aussi de voir en fait à quel point on peut limiter sans se limiter dans la publication. Et c'est un peu ça qu'on s'en rend compte, c'est que finalement, là, on a des articles qui vont consommer... Enfin, l'article, c'est peut-être... Je crois qu'il y a aussi la taille de la page pour chaque article. Donc la taille de la page avec toutes les images que cette page a. Et souvent, on est dans les... 200, 300 kilobits, donc c'est très peu.
Alors qu'un site normal, avec des images, ça va être 100 fois plus, quoi. Ça peut être 100 fois plus tranquillement avec des photos qui n'ont pas été redimensionnées, des choses comme ça, des vidéos, enfin, n'en parlons pas, quoi, effectivement.
Et puis en plus, je pense que il y a aussi toute la question d'accessibilité, au sens que finalement, avoir un site qui est très peu consommateur d'énergie, c'est aussi plus accessible dans le sens que des personnes qui n'ont pas beaucoup de réseau, par exemple, qui se retrouvent dans les endroits où il y a peu de réseau, où le réseau coûte très cher et qu'il faut le payer faut payer son forfait assez cher, ben ils vont pouvoir accéder sans problème. Et aussi des personnes qui ont des appareils numériques anciens. Mm-hmm. Donc là, on revient à la question de
préserver ces appareils.
De préserver les appareils, et ben ils vont quand même pouvoir accéder au site parce qu'il n'est pas, même si il y a peut-être des trucs qui vont pas marcher parce qu'on n'a pas HTML5 ou je sais pas quoi. C'est même pas un souci parce qu'à la fin, voilà, c'est du HTML qui est sémantique et qu'on peut juste lire ça. Et CTRL-P, c'est imprimé sur papier, voilà quoi. Il y a aussi des styles d'impression, c'est-à-dire qu'on peut faire CTRL-P, imprimer, et on peut imprimer l'article. D'ailleurs, il va s'imprimer, ok, ça a été designé très bien par Lorraine, qui est la personne qui a d'abord designé le livre, comme une sorte de journal, quoi, avec deux colonnes. Donc on peut aussi même lire les articles, voilà.
Proprement imprimé, impeccable.
Proprement. Après, c'est sympa d'acheter le livre, quand même.
Bien sûr. Il nous reste une ou deux minutes maximum. Qu'est-ce que tu aurais envie de compléter par rapport à tout ce qu'on a déjà dit? Est-ce qu'il y a vraiment une chose que tu souhaites répéter ou que tu aurais oublié?
Qu'est-ce que j'aimerais répéter? Je pense que ce qui est important de retenir, ça serait de dire que qu'il faut un peu essayer de dépasser l'idée de low-tech comme un mode de vie, que c'est une démarche politique et qu'on a envie que ce soit une démarche conviviale. Et qui pensait aussi de quelle manière elle peut renoncer à certaines choses, ça peut aussi nous rendre heureux et remettre en question certaines choses auxquelles on est habitué, certains exercices de pensée. C'est un exercice de pensée aussi qui permet de remettre en question, on va dire, des préconceptions qu'on va avoir. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais insister. Et après... écoutez, abonnez-vous à la newsletter et comme ça on reste en contact, et il y a beaucoup de choses qui arrivent là. On va avoir une BD qui va sortir sur Chris, qui a été fait par un auteur belge,
ouais,
de comics. On a l'article qui sort sur le nouveau site solaire, et un article aussi sur des panneaux solaires et construire des petits systèmes de panneaux solaires qui va sortir là dans les prochains mois.
Super. Bah écoute, merci beaucoup Marie d'avoir fait ce déplacement depuis Bruxelles.
Merci.
Je vais repasser la parole à Fred et puis remercier aussi Kylian, mais je l'ai fait tout à l'heure avant qu'il raccroche, ça a été un peu. Je te repasse la parole, Fred.
Bah écoute, merci Laurent. Donc nos invités, donc Marie Verdet, qui est donc designer chez Low Tech Magazine et indépendante. Nous avons aussi Kylian Kemps, cofondateur de l'hébergeur résilient du qui est du côté de Lannion. On reparlera tout à l'heure de Lannion dans les annonces si j'ai le temps. Et évidemment, le sujet a été préparé et animé par Laurent Costi, chargé de mission éducation et commun numérique au CMEA et vice-président de l'April. J'en profite juste pour faire une petite annonce. Dans sa conclusion, Marie a parlé de démarche politique. Eh bien, le 23 mai, j'aurai le grand plaisir d'accueillir Agnès Crépet pour un parcours Libris. Agnès Crépet, qui est donc la responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle chez Fairphone, le téléphone durable, réparable et éthique, et qui, on va parcourir un petit peu la vie d'Agnès Crépet. Et je pense que la démarche politique est en plein dans sa démarche à la fois personnelle et professionnelle. Donc c'est le 23 mai. Et puis nous allons donc faire, je vous souhaite une belle fin de journée.